Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David.
C'était il y a 150 ans, le 10 mai 1871, était signé le traité de Francfort, un traité qui validait l'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne et le paiement de 5 milliards de francs hors de réparation. Un traité qui signait l'inéluctabilité de la Première Guerre mondiale. Nous sommes en compagnie de Jean-Paul Bled, professeur émérite d'histoire à la Sorbonne, auteur du livre Bismarck, publié chez Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, après l'armistice du 28 janvier 1871, des élections ont lieu le 8 février en France. Quel est le résultat de ces élections ?
Eh bien, ces élections donnent une nette majorité aux partisans de la paix. Les Français sont épuisés par cette guerre et contre ceux qui souhaiteraient, c'est-à-dire en gros les Républicains, qui souhaiteraient continuer la guerre, qui refusent la défaite, eh bien, la majorité donne ses suffrages aux partis monarchistes et aux républicains modérés, favorables à la paix, si dure qu'elle soit.
Alors justement, les négociations sont entamées dès le 23 février à Versailles entre d'un côté Adolphe Thiers, chef du gouvernement, et Jules Favre, oui, ministre des Affaires étrangères, et Bismarck. Un Jules Favre qui avait déclaré le 6 septembre 1870, je cite, « qu'on ne céderait à l'Allemagne pas un pouce de nos territoires, pas une pierre de nos forteresses, un immense reniement en vue ».
Oui, bien sûr, c'est un reniement. En même temps, il faut bien voir que ce propos est tenu alors que le gouvernement de défense nationale vient d'arriver aux affaires. Il a l'espoir de pouvoir s'opposer à la force allemande et quelques mois plus tard, il est évident que cet espoir ne tient plus. Et que probablement il n'y a pas d'autre issue que de traiter. Donc, en apparence, c'est un reniement, mais un reniement qui s'explique.
Justement, à ces propos de Favre, Bismarck avait répondu lors de l'entretien de Ferrières le 19 septembre 1870, qu'il, je cite, qu'il faudrait céder l'Alsace et la Lorraine comme condition de paix. Les Alsaciens-Lorrains s'attendaient-ils à cet abandon puisque le 17 février, Émile Keller, qui était député du Haut-Rhin, lit une déclaration affirmant le droit imprescriptible des Alsaciens et des Lorrains à rester membres de la nation française ?
Oui, alors il est certain que l'écrasante majorité des Alsaciens et des Mosellans souhaitent rester dans la nation française. Ça, c'est absolument indiscutable. Mais il est aussi évident que cette volonté ne pèse pas lourd face au rouleau compresseur allemand. Et c'est la réalité, la triste, tragique réalité. Les responsables français n'ont d'autre choix que de s'incliner. Alors, on peut tout de même ajouter un point qui a son importance, c'est que le traité va reconnaître un droit aux Alsaciens et aux Mosellans qui le souhaitent de quitter l'Alsace et la Moselle, oui, pour
Rester français.
Rester français.
On va en parler un peu plus tard, justement. Donc, l'Assemblée nationale ratifie le texte le 1er mars par 546 voix contre 170 et 23 abstentions. Les 35 députés des territoires cédés quittent la séance. Le soir même, le député maire de Strasbourg, Émile Cus, succombe à un malaise cardiaque en apprenant la nouvelle lorsqu'il arrive à Bordeaux, où le Parlement s'est retranché. C'est une histoire incroyable.
C'est une histoire incroyable, une histoire très triste. Et puisque vous parlez du Mercus, eh bien, lorsqu'on arrive à Strasbourg par le train, la rue qu'on a en face de soi, c'est la rue du docteur Cus.
Absolument. La France perd 14 470 km², 1694 communes, 1 597 000 habitants. Le territoire cédé comprend 20% du potentiel minier et sidérurgique français. C'est une tragédie pour le pays.
Oui, bien sûr, c'est une tragédie en tous les sens. C'est une tragédie humaine, d'abord une tragédie humaine, bien entendu. C'est une tragédie économique, par les éléments que vous avez mentionnés. Et puis, c'est une tragédie, on peut dire militaire, stratégique, parce que avec cette cession de l'Alsace et d'une partie de la Moselle, nous perdons les Vosges, nous perdons la crête des Vosges, et c'était d'ailleurs un des objectifs de Bismarck et de l'état-major allemand, c'est une route ouverte à l'intérieur de la France.
Alors justement, la France est aussi condamnée à verser 5 milliards de francs hors d'indemnité de guerre avec une occupation de 6 départements du Nord tant que la totalité n'est pas payée. Tout est payé en septembre 1873, en à peine 2 ans, donc moins de 2 ans et demi plus tard. Et ironie de l'histoire, le dernier soldat allemand quitte la dernière ville occupée qui est Verdun.
Oui.
Encore une ironie de l'histoire.
Bien sûr. Alors, dans l'instant, ce que cela signifie, cette rapidité avec laquelle les Français se sont acquittés de cette obligation. Bismarck ne pensait pas que ce versement se ferait aussi rapidement. Et il y a eu une mobilisation patriotique.
Emprunt d'État.
Voilà, l'emprunt d'État, qui a été couvert plusieurs fois. Il y a eu d'autres emprunts, d'ailleurs. Ça ne se limite pas à cet emprunt d'État, et ils ont tous été couverts très rapidement. Et donc, c'est la confirmation de cet élan patriotique.
Alors justement, vous en avez parlé, les Alsaciens lorrains peuvent choisir ce qu'on appelle l'option française. Il y a des rues de l'option française en Alsace-Moselle, ce que nombreux font, parmi les plus célèbres, la famille du capitaine Alfred Dreyfus ou la famille de Vindel. Nombre émigrent en France, notamment à Nancy, qui voit sa population augmenter. Nancy est restée française, contrairement à Metz. En Algérie, alors française, aux USA et au Canada, il y a une grosse immigration d'Alsaciens mosellans.
Et pour rester à Paris, c'est le moment où va être créée l'école alsacienne,
oui,
qui est une grande école d'enseignement secondaire, n'est-ce pas ? C'est aussi l'époque où l'on voit s'installer un certain nombre de grands restaurants alsaciens qui sont devenus de grandes références. Par exemple, Boffinger, par exemple, Lippe.
Oui.
Eh bien, leur installation date de cette époque.
Comment réagit-on à cette cession en France alors que la Commune est en cours et la Commune, c'est pas qu'à Paris ?
Oui, alors, la Commune, elle a aussi un fond patriotique. C'est pas simplement une révolte sociale, c'est cela, mais c'est aussi une réaction patriotique. On le voit dans le fait que Thiers, pour sauver Belfort, a accepté que les troupes prussiennes et allemandes entrent dans Paris au moins jusqu'à la Concorde. Bon, c'est une concession qu'il a faite, encore une fois, pour que la France garde Belfort. Et les Parisiens ont ressenti cette concession comme un affront. Et la réponse, ça a été la Commune. Donc, il y a une dimension patriotique en même temps qu'une dimension sociale évidente.
C'est le début du revanchisme, ça rend la Première Guerre mondiale inéluctable pour ce conflit territorial ?
Alors, bien sûr, la Première Guerre mondiale ne s'explique pas exclusivement par le contentieux franco-allemand, mais c'en est un élément majeur. Et donc, si l'on veut tracer la ligne qui nous conduit jusqu'à juillet 1914, il est évident qu'il faut partir de mai 1871.
Merci beaucoup Jean-Paul Bled, professeur émérite d'histoire à la Sorbonne, auteur du livre Bismarck, publié chez Perrin.
Bonheur et pas, l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais.
C'était